Les Duncan me demandent parfois si je comprends les idées exotiques de notre passé, et si je les comprends, pourquoi je ne peux pas les expliquer. La connaissance, d'après les Duncan, réside dans une somme de détails. Je m'efforce de les convaincre que les mots n'ont qu'une valeur plastique. L'image des mots commence à se déformer à l'instant même où ils sont formulés. Les idées incrustées dans un langage ne peuvent s'exprimer que dans ce langage donné. C'est l'essence même de la signification profonde du terme « exotique ». Vous voyez comme les distorsions commencent à apparaître. La traduction vacille en présence de l'exotique. Le galak que je parle ici s'impose. C'est un cadre de référence externe, un système particulier. Tous les systèmes recèlent des dangers. Ils englobent les croyances non vérifiées de leur créateur. Adopter un système, adhérer à ses croyances, c'est renforcer la résistance au changement. Cela sert-il à quelque chose que j'explique au Duncan que, pour certains concepts, il n'y a pas de langage? Ah, mais les Duncan ont toujours cru que tous les langages m'appartiennent. Les mémoires volées. 2 jours et 2 longues nuits durant, Siona négligea de fixer son rabat, perdant une eau précieuse chaque fois qu'elle respirait. Il avait fallu lui réciter l'admonestation aux enfants Fremen pour que l'avertissement donné par son père lui revienne en mémoire. Finalement, Leto lui avait parlé le 3e matin glacé de leur traversée, quand ils avaient fait halte à l'ombre d'un piton sur la plaine pierreuse battue par les vents. « Préserve chaque souffle, car il contient l'eau et la chaleur de ta vie », avait-il murmuré. Il savait qu'il passerait 3 journées sur la plaine et encore 3 nuits au-delà avant de découvrir de l'eau. Le soleil venait de se lever pour la 5e fois depuis qu'ils avaient quitté la tour de la petite citadelle. Au cours de la nuit, ils étaient entrés dans une zone à moitié sablonneuse. Ce n'étaient pas des dunes, mais on pouvait en apercevoir au loin, et même les vestiges de la chaîne de Habania formaient une mince ligne brisée à l'horizon pour celui qui savait où tourner son regard. Siona ne défaisait plus le rabat de son disti que lorsqu'elle était obligée de parler. Ses lèvres étaient devenues noires et excoriées. Sa soif est celle du désespoir, se dit Leto en laissant ses sens explorer les alentours. Elle va bientôt atteindre les instants de la crise. Ses sens lui disaient qu'ils étaient toujours seuls en bordure de la plaine. Le soleil encore pâle de l'aube criait des reflets de poussière dansante que le vent incessant agitait dans tous les sens. L'oreille de Leto filtrait le bruit du vent afin de percevoir le reste. La respiration saccadée de Siona, les minuscules avalanches de sable sur le flanc d'un rocher voisin, le frottement de son propre corps sur les cailloux. Siona défit son rabat, mais sa main demeura prête à le remettre promptement en place. « Dans combien de temps trouverons-nous de l'eau ? » demanda-t-elle. « Encore 3 nuits. » Y a-t-il une meilleure direction à prendre? Non. Elle en était venue à apprécier l'économie fremen des informations importantes. Elle aspira avidement quelques gouttes d'eau au tuyau de son distille. Leto reconnut le message de ses mouvements. Enfin un geste familier des fremen. Siona avait maintenant pleinement conscience d'une expérience commune parmi ses ancêtres. Le patillé. La soif au bord de la mort. Les quelques gouttes contenues dans la poche du disti étaient épuisées. Il l'entendit aspirer de l'air. Elle remit le rabat en place et parla d'une voix étouffée. « Je n'y arriverai jamais, n'est-ce pas ?» Il la regarda dans les yeux. Il trouva cette clarté de la pensée qu'apporte l'imminence de la mort. Une lucidité rarement atteinte en d'autres circonstances. Cela ne faisait qu'amplifier ce dont elle avait besoin pour survivre. Oui, elle était déjà bien avancée dans le Tedari à Grimmy. L'agonie qui ouvre l'esprit. Bientôt, il lui faudrait prendre l'ultime décision, celle qu'elle croyait avoir déjà prise. Les signes indiquaient à Leto qu'il devait désormais traiter Siona avec la plus extrême courtoisie. Il faudrait qu'il réponde à chacune de ses questions avec sincérité, car derrière chacune d'elles se cachait un jugement. « Y arriverai-je ? » insista-t-elle. Il y avait encore une trace d'espoir dans sa détresse. « Rien n'est sûr, dit-il. Cette réponse la fit retomber dans le découragement. Telle n'avait pas été l'intention de Leto, mais il arrivait souvent, il le savait, qu'une formulation précise, quoique ambiguë, fut interprétée comme la confirmation des pires craintes que l'on avait entretenues. Elle poussa un profond soupir. D'une voix étouffée par le rabat, elle le sonda de nouveau. « Vous aviez l'intention de me faire jouer un rôle spécial dans votre programme génétique, » dit-elle. Et ce n'était pas une question. « Tout le monde a des intentions. Mais vous désirez que je sois d'accord, évidemment. Comment pouviez-vous espérer mon accord, sachant que je déteste tout ce qui vient de vous ? Soyez honnête avec moi. » Les trois branches d'un accord sont l'intention, l'information et l'incertitude. La précision et l'honnêteté n'ont pas grand-chose à voir avec la question. Je vous en prie, n'ergotez pas avec moi. Vous voyez bien que je vais mourir. Je te respecte trop pour ergoter avec toi. Il dressa légèrement ses segments antérieurs pour sentir le vent. Il apportait déjà la chaleur de la journée, mais il était encore trop chargé d'humidité pour l'agrément de Leto. Celui-ci constatait que plus il essayait de faire régler les conditions climatiques, plus il fallait intervenir sur une foule de détails. Les absolus ne faisaient que multiplier les impondérables. « Vous dites que vous n'ergotez pas, mais la dialectique ferme la porte au sens », déclara Leto en ramenant son visage plus près du sol. « Elle masque l'agressivité. Poussée à outrance, la discussion conduit toujours à la violence. Et mes intentions envers toi ne sont pas violentes. Que vouliez-vous dire par « intention, information, incertitude » ? L'intention réunit les participants. L'information délimite le débat. L'incertitude crée les questions.
Elle se rapprocha de son visage pour bien le regarder dans les yeux. Elle se tenait à moins d'un mètre de lui.
« Étrange, se dit-il, comme la haine peut être étroitement mêlée à l'espoir, l'inquiétude et l'effroi.
« Pourriez-vous me sauver ?» demanda Siona.
« Il y a un moyen. »
Elle hocha la tête et il comprit qu'elle se méprenait.
« C'est comme cela que vous comptez obtenir mon accord ?» accusa-t-elle.
« Non, Siona. Si je réussis à votre épreuve, ce n'est pas mon épreuve. Celle de qui, alors ?
Elle est issue de nos ancêtres communs. » Siona se laissa tomber assise sur la roche froide et garda le silence. Elle n'était pas encore prête à demander asile dans le creux douillet du segment antérieur. Leto entendait presque le cri étouffé tapi dans sa gorge. À présent, ses incertitudes étaient vraiment à l'œuvre. Elle devait commencer à se demander s'il pouvait réellement correspondre à l'image du tyran ultime qu'elle s'était faite de lui. Elle leva les yeux vers lui avec cette expression de terrible lucidité qu'il avait reconnue chez elle.
« Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites ?»
La question était habilement circonscrite.
Il répondit « Le besoin de sauver les gens. »
« Quels gens ?
Ma définition est plus large que celle de quiconque, même celle du Bene Gesserit qui croit avoir donné la définition de l'humain. Ma référence à moi est le fil éternel qui relie toute l'humanité, quelle qu'en soit la définition.
Vous voulez dire que... »
La bouche de Siona était devenue trop sèche pour parler. Elle essayait d'accumuler suffisamment de salive. Leto apercevait ses efforts derrière le masque du distille. La question qu'elle voulait poser était évidente cependant, et il n'attendit pas pour répondre.
« Sans moi, il n'y aurait à présent plus de gens nulle part, absolument plus personne. Et la route de l'extinction aurait été encore plus horrible que tout ce que tu es capable d'imaginer. »
« Votre supposée préscience, » ricana-t-elle.
« Le sentier d'or est toujours libre, » fit-il.
« Je n'ai pas confiance en vous. »
Parce que nous ne sommes pas égaux ?
Oui.
Mais nous sommes interdépendants ?
Quel besoin avez-vous de moi ?
Ah, le cri de la jeunesse incertaine d'avoir sa place.
Il ressentait la force des liens secrets de dépendance et s'obligea à parler durement.
La dépendance engendre la faiblesse. Tu es le sentier d'or, dit-il.
Moi ?
Murmura-t-elle dans un souffle à peine audible.
Tu as lu ces mémoires que tu m'as volées. Je suis dedans. Mais toi, où es-tu ? Regarde ce que j'ai créé, Siona. Toi.
toi, tu ne peux rien créer, à part toi-même. Des mots. Encore des mots trompeurs.
Je ne souffre pas d'être vénéré, Siona. Je souffre de n'être jamais apprécié. Peut-être que...
Non, je n'ose pas fonder des espoirs sur toi.
Quel est l'objet de ces mémoires?
C'est un appareil Ixien qui les enregistre. On les découvrira un jour dans très longtemps. Ils sont destinés à faire réfléchir les gens.
Un appareil Ixien? Vous défiez le djihad?
Il y a là une leçon également.
À quoi servent de telles machines en réalité? À accroître le nombre de choses que nous pouvons faire sans y penser. Voilà le vrai danger. Les choses que nous faisons sans y penser.
Pense à tout le temps que tu as passé à parcourir ce désert avant de songer à mettre ton rabat en place.
Vous auriez pu m'avertir
et resserrer ta dépendance? Elle le dévisagea un long moment.
Pourquoi voulez-vous que je prenne le commandement de votre vitesse?
Tu es une Atréide, pleine de ressources et capable de jugements indépendants. Tu sais être sincère par simple amour de la vérité telle que tu la conçois. Tu es né et tu as été élevé pour commander, ce qui signifie que tu dois être libre de toute dépendance.
Le vent faisait tourbillonner la poussière et le sable autour d'eux, tandis qu'elle pesait les paroles de Leto.
« Si j'accepte, dit-elle, vous me sauverez la vie ?»«
Non. »
Elle s'attendait tellement à la réponse inverse qu'il lui fallut plusieurs battements de cœur avant d'interpréter ce simple mot. Durant cet intervalle, le vent tomba légèrement et une trouée au-dessus des dunes permit d'apercevoir au loin les vestiges de la chaîne de Habania. L'atmosphère s'était soudain drapée d'un froid qui absorbait aussi efficacement l'humidité que pouvaient le faire les plus chauds rayons du soleil. Une partie des perceptions de Leto décelèrent un phénomène d'oscillation dans la régulation du temps.
« Non, » fit Siona, à la fois perplexe et indigné.
« Je ne conclus pas de marcher de sang avec les gens en qui je dois avoir totalement confiance. »
Elle secoua lentement la tête d'un côté puis de l'autre, mais sans cesser de regarder Leto.
Qu'est-ce qui pourrait vous forcer à me sauver?
Rien ne peut m'y forcer. Comment peux-tu songer à exercer sur moi des pressions que je refuse d'exercer sur toi?
Ce n'est pas là la voie de l'interdépendance?
Les épaules de Siona retombèrent.
Si je ne peux pas négocier avec vous, ni vous forcer,
tu dois choisir une autre voie.
Quel spectacle magnifique d'observer l'explosion d'une soudaine compréhension, se dit-il. Les traits expressifs de Siona ne cachaient rien du processus qui était en train de s'accomplir en elle. Son regard, farouchement rivé à celui de Leto, semblait essayer de le percer jusqu'à la pensée. Sa voix étouffée s'enrichit d'une nouvelle vigueur.
« Vous me laisseriez savoir tout sur vous, jusqu'à vos moindres faiblesses ?
Voudrais-tu me voler ce que je te donne librement ?»
La lumière du matin faisait jouer des ombres dures sur le visage de Siona.
« Je ne vous promets rien, » fit-elle.
« Je ne te le demande pas.
Vous me donnerez de l'eau, si je vous en demande. »
« Pas seulement de l'eau. »
Elle hocha lentement la tête.
« Je sais. Je suis une Atréide.